Nous sommes reconnaissants envers le Seigneur pour cette journée, reconnaissants de l'occasion qui nous est donnée d'être ainsi réunis. Le refrain que nous venons de chanter en dernier, je l'ai entendu il y a environ 3 bonnes heures à Belgrade, dans le salon de l'aéroport. Il y a de très nombreux chants importants, des cantiques de foi, dont notamment ce refrain que nous venons de chanter. Le monde entier est plongé dans une atmosphère religieuse, et dans cette atmosphère religieuse, il est également détourné de la vérité de Dieu et de ce qu'il fait au grand renfort de tambours et de trompettes. Et cela nous attriste profondément. Nous ne portons pas de jugement et ne critiquons certainement pas, mais nous souhaitons que le monde entier, du moins le monde croyant, apprenne ce que Dieu a promis pour cette époque et ce qu'il accomplit actuellement. Avant d'entrer dans la méditation de la parole, je voudrais annoncer très brièvement la nouvelle la plus triste que nous ayons reçue jusqu'à présent cette année. Notre frère Gabriel, que nous aimions de tout notre cœur, nous a quittés et est auprès du Seigneur dans la gloire. Les funérailles ont eu lieu mardi. Et je dois dire qu'il n'y a guère eu de cérémonie d'adieu qui m'ait autant ému intérieurement que celle-ci. Il y a des moments dans la vie où nous ne pouvons plus tout à fait suivre, ni tout à fait comprendre, et encore moins mettre en perspective ce que Dieu est en train de faire à cet instant précis. C'est alors que nous parvient la parole du Seigneur. Ce que je fais maintenant, tu ne le comprends pas, mais tu le comprendras plus tard. Il y a des choses dans la vie que nous ne pouvons pas tout à fait comprendre. Ce sont souvent des enfants, des personnes innocentes qui sont arrachées à la vie, emportées par des tremblements de terre, des guerres, des catastrophes, des maladies. Le monde incrédule demande pourquoi cela doit arriver. Nous, en tant que croyants, nous le savons et nous voulons te le dire, chère sœur Gabrielle, ainsi qu'à toute la maison, à toutes les filles, aux fils, aux gendres, à tous les proches, en toute franchise et ouverture, Dieu vous donnera la force de surmonter cette épreuve aussi, sachant qu'il ne commet aucune erreur. Nous croyons que notre frère a vaincu et qu'il est auprès du Seigneur. Mais comme une guérison si merveilleuse avait eu lieu il y a quelque temps, nous avons tout de même été surpris que le Seigneur ait rappelé notre frère bien-aimé à lui. Je l'ai dit lors des funérailles, il doit y avoir des personnes à qui il fallait s'adresser, qui n'auraient pas été touchées autrement. Et ainsi, que la parole qui a été prêchée là-bas ne revienne pas vide, mais accomplisse ce pourquoi elle a été envoyée. Nous partageons ensemble la joie et la douleur. Vous n'êtes pas seuls, frères et sœurs bien-aimés, mais vous avez autour de vous et avec vous des frères et sœurs qui partagent avec vous la joie et la douleur. Il n'y a eu qu'un seul décès, celui de Siegfried Hellemann. C'était mon neveu, à l'âge de, c'était quoi déjà, 19 ou 20 ans. Il a soudainement trouvé la mort pendant sa formation à l'école de police et a été rappelé à Dieu. J'ai contesté Dieu et je n'arrivait absolument pas à accepter ni à comprendre pourquoi cela s'était produit. D'une certaine manière, j'avais l'impression de voir une réponse aux gens. Et je n'oublierai jamais ce jour-là, c'était après les funérailles. Je me trouvais au 2 de la rue Löwenstein, à Hölzlin-Sülz. Je travaillais les vignes jusqu'à la lisière de la forêt, et là où se trouvait une ancienne gravière, et je parlais avec Dieu. J'ai dit, Seigneur, on attend de moi que je donne une réponse, que j'explique pourquoi cela a dû arriver. Je ne l'oublierai jamais, de nulle part. La voix du Seigneur s'est fait entendre comme toujours venant d'en haut à droite. Je l'ai pris auprès de moi afin qu'il ne soit pas condamné avec le monde. Je ne savais pas du tout que cette parole se trouvait dans 1 Corinthiens au chapitre 11. Mais depuis cet instant, j'ai pu apporter du réconfort, au moins parce que je savais qu'il était auprès du Seigneur. Une période venait justement de s'ouvrir pour lui où l'on devrait craindre qu'il ne s'enfonce complètement dans le monde et ne dérape. Et en ce qui concerne mon cher frère Gabriel, nous savons qu'il s'est accroché au Seigneur de toutes ses forces et qu'il peut désormais contempler ce en quoi il a cru. Je voudrais lire le passage de Romains chapitre 8 que sœur Gabriel a inscrit sur l'avis de décès. Romains chapitre 8, versets 38 et 39. Versets 38 et 39. Romains 8. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les puissances, ni le présent, ni l'avenir, ni aucune autre puissance, verset 39, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ, notre Seigneur. Notre Seigneur, nous savons que le passage dans l'éternité ne signifie pas la mort, mais un départ d'ici-bas et une arrivée auprès du Seigneur au paradis. Selon ce qu'il a lui-même proclamé sur la croix. En vérité, je te le dis, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Les croyants n'ont rien à craindre. Ils savent où ils vont, car ils savent en qui ils ont cru, à savoir celui qui est venu pour sauver et rendre bien heureux. Parfois, cela nous peine de voir une agonie s'installer. Là aussi, il y a des différences. Et nous devons dire, Dieu arrange tout comme il se doit. Je voudrais lire spécialement pour vous, chers frères et sœurs qui avez vécu cela, le psaume 82. Le psaume 82, versets 6 et 7. J'ai moi-même dit que vous êtes des dieux et tous des fils du Très-Haut. Verset 7. Pourtant, vous mourrez comme des hommes. Voilà pour cette parole. Parfois sans agonie, parfois avec, parfois sans maladie, parfois avec. L'homme ne peut pas choisir. Heureux sommes-nous si nous nous soumettons à tout, quoi qu'il arrive, et rendons grâce au Seigneur. Pour nous consoler, voici le psaume 84, versets 6 à 8. Heureux tous ceux qui trouvent en toi leur force quand ils songent à leur pèlerinage. Verset 7, quand ils traversent la vallée des larmes, ils en font une source. Que la pluie de l'avant-saison part d'une riche bénédiction. Verset 8. Ils cheminent avec une force sans cesse renouvelée jusqu'à ce qu'ils se présentent devant Dieu à Sion. Alléluia. Loué soit Dieu. Ils cheminent ainsi avec une force sans cesse renouvelée jusqu'à ce qu'ils se présentent devant Dieu. Il en sera de même pour nous tous, que nous soyons appelés avant ou seulement lorsque retentira l'appel au réveil, que la voix de l'archange et la trompette de Dieu résonneront. Peu importe quand, nous serons toujours près du Seigneur. La mort n'est pas la fin, elle n'est que le passage vers l'au-delà. Je voudrais être très bref. Cet après-midi, nous avons déjà entendu un grand nombre de pensées et de conseils importants que nous pouvons certainement emporter avec nous dans notre vie quotidienne pour nous examiner, voir où nous en sommes dans notre quotidien, comment nous présentons-nous devant Dieu, comment nous présentons-nous devant les hommes, pouvons-nous, tels que nous sommes, nous présenter devant le Seigneur, subsister devant lui. Telle est encore aujourd'hui la question. Et nous croyons que le Seigneur, qui a commencé, achèvera aussi et nous montrera ce dont nous devons nous débarrasser, ce qui doit changer. L'Esprit de Dieu nous mettra en garde et nous indiquera les choses qui ne peuvent subsister devant Dieu, qui ne sont pas justes à ses yeux. C'est cela, la purification. Et les Saintes Écritures disent dans l'Apocalypse que celui qui est pur se purifie encore davantage et que celui qui pratique la justice continue de la pratiquer et que le saint se sanctifie encore davantage. Apocalypse 22, 11. Jusqu'à ce que nous soyons purifiés et sanctifiés de part en part, imprégnés de la nature et de la vie divine, jusqu'à ce que nous allions alors véritablement vers le Seigneur qui nous a aimés et nous a transformés à son image. J'avais encore noté un passage d'Hébreux 2 concernant la mort. Elle nous cause en effet bien des pensées, pour ne pas dire des soucis. Nous souhaiterions qu'elle ne soit plus là. Laissez-moi lire encore ce passage, Hébreux chapitre 2, puis quelques autres passages concernant la fin des temps. Hébreux chapitre 2, verset 7. Hébreux 2, verset 7. Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Verset 8, tu lui as tout soumis sous ses pieds. En effet, en lui soumettant tout, il n'a rien exclu de cette soumission jusqu'à présent. Cependant, nous ne percevons pas encore que tout lui est soumis. Verset 9, mais nous voyons celui qui a été abaissé pour un temps au-dessous des anges, à savoir Jésus, couronné de gloire et d'honneur à cause de la souffrance de sa mort, car c'était par la grâce de Dieu qu'il devait goûter la mort pour tous. Sur terre, la mort a atteint tous les hommes. En Adam, tous doivent mourir. En Christ, nous sommes amené à la vie. On pourrait également lire beaucoup de passages à ce sujet dans 1 Corinthiens 15 et d'autres passages qui nous éclairent sur ce point. Je crois que nous qui sommes croyants recevons précisément dans les heures d'épreuve le réconfort nécessaire des Saintes Écritures, non seulement des hommes, mais de Dieu lui-même. Je crois pouvoir dire que non seulement vous, chers frères et sœurs, Gabriel et tous ceux qui vous sont proches, mais aussi nous tous, savons que notre frère est auprès du Seigneur. Ce ne sont pas que des paroles en l'air. Nous le croyons de tout notre cœur et nous le croyons parce que Dieu l'a dit ainsi dans sa parole. Et ainsi, nous pouvons supposer que la joie traversera la douleur, d'autant plus que nous savons tous que la durée de cette séparation ne peut être que très brève. Plus pour longtemps, croyez-moi, plus pour longtemps. Les signes des temps parlent d'une manière si claire que nous ne pouvons tout simplement pas les ignorer, mais que nous devons sans cesse répéter. Seigneur, nous te remercions de nous avoir révélé ta parole. Seigneur, nous te rendons grâce pour le message de la fin des temps avec toutes ces prophéties, toutes ces promesses et tout ce qui se passe actuellement sous nos yeux. Que ce soit en Israël ou chez les peuples voisins, où que cela se passe, cela n'arrive que pour que l'Écriture s'accomplisse en ce temps et que nous levions tous la tête, car nous savons que notre rédemption approche. Bien sûr, c'est vrai que lorsque cela se passe en Irlande du Nord ou dans d'autres coins du monde, nous n'y prêtons pas autant attention et nous ne nous en soucions pas autant que lorsque cela se passe au Proche-Orient, au Moyen-Orient, dans le golfe Persique, ou que ce soit, car là, nous avons toujours la même crainte qu'il soit question de nombreux ennemis, mais une chose, nous la savons tous. Pour l'ensemble du monde arabe, il n'y a qu'un seul ennemi et c'est Israël. Et que Dieu accorde sa grâce afin que l'humanité tout entière ne regarde pas dans une seule direction et que les ennemis ne se détournent pas pour partir ou frapper dans une autre direction. On m'a demandé à plusieurs reprises ces derniers jours si cela pouvait déjà arriver. Non, cela ne peut pas encore arriver. Et je vais vous dire aussi pourquoi. Premièrement, parce que l'Église du Dieu vivant est encore ici. La dernière grande confrontation n'aura pas lieu dans le golfe Persique, mais à Armageddon, dans la vallée de Megiddo, au nord de Jérusalem. Et l'ennemi viendra de l'extrême nord et non pas comme c'est le cas actuellement. Mais ce qui devrait nous sembler très important à tous, c'est le fait que tous ces foyers de crise ne font qu'amplifier le cri en faveur de la paix. Plus il y a de catastrophes, plus il y a de crises, plus les cris de guerre sont nombreux, plus grand est le désir de paix, de détente et de sécurité parmi l'humanité. Et cela s'inscrit parfaitement dans le tableau de la fin des temps pour que cet homme de paix qui n'a pas d'armée, qui ne peut pas avoir de canon en marche, qui ne peut pas envoyer de navire de guerre, qui ne peut rien opposer d'autre que sa propre autorité. Et cela suffit. Cela signifie plus que toute l'armée des Nations Unies et des États-Unis et qu'ils puissent être. Peut-être que cela ne s'inscrit pas tout à fait ici. On m'a remis un magazine, à savoir notre pays qui était divisé. La partie occidentale, majoritairement catholique, romaine, mais la partie orientale, presque exclusivement protestante. Et voici que le pape apparaît déjà sur le timbre que l'on colle partout et le voilà déjà en route sous les yeux de tout le monde. Martin Luther ne figure pas, Schwenkfeld non plus. Vous l'avez vécu ici, en Suisse, lorsque le billet de 100 francs représentant Saint-Martin a été remplacé par celui avec la belle église, la belle communauté religieuse et celui qui y figure, n'est-ce pas? Non, nous constatons partout que les choses tombent de plus en plus fermement entre les mains de celui qui a le rôle le plus important à jouer dans les derniers temps. Mais rendons grâce à Dieu pour cela, car plus cette évolution progresse, plus le retour de Jésus-Christ, notre Seigneur, se rapproche. Et si les conflits actuels conduisent à ce que l'on réclame encore davantage la paix, alors qu'il en soit ainsi, à la fin, complètement à la fin, il faudra bien s'écrier, maintenant c'est la paix et la sécurité. Donc, toutes ces choses doivent donc arriver afin que l'Écriture s'accomplisse. Également à cet égard, il y a ces passages chez le prophète Daniel, très importants, qui indiquent qu'il y aura des guerres et des conflits jusqu'à la fin. Daniel chapitre 9, la deuxième partie du verset 26 et deuxième partie du verset 27. Voici ce qu'il est dit dans Daniel 9, deuxième partie du verset 26. Et jusqu'à la fin, il y aura la guerre, des ravages résolus. Et puis, dans le dernier verset, deuxième partie, et à leur place sera dressée l'abomination de la désolation jusqu'à ce que la destruction résolu se déverse sur la désolation. Il y aura donc une désolation avant que la destruction résolue ne se déverse sur elle. Puis, dans Matthieu chapitre 24, que nous connaissons tous depuis des années, le Seigneur parle en effet de la fin des temps dans laquelle nous vivons actuellement. Matthieu 24, lisons ici Matthieu 24, peut-être les versets 7. Matthieu 24, les versets 7 et 8. Car une nation s'élèvera contre une autre et un royaume contre un autre. Il y aura aussi des famines et des tremblements de terre ici et là. Verset 8. Mais tout cela n'est que le commencement des douleurs. Comme on l'a souvent souligné, ce n'est pas encore la fin, mais le commencement et la suite, jusqu'à ce que tout à la fin, la paix soit proclamée pour montrer que ce qui se passera tout à la fin ne peut pas encore se produire maintenant. Lisons trois passages. Pour montrer cela, nous lisons trois passages bibliques du prophète Ézéchiel au chapitre 38. Ézéchiel au chapitre 38, afin de ne pas nous inquiéter, comme l'a écrit Paul à l'époque, certains avaient été troublés comme si le jour du Seigneur était déjà là. Ici, dans Ézéchiel 38, des versets 5 à 8, on nous dit qui sont ces gens. Et surtout, quand vous entendrez parler de l'extrême nord, le Koweït n'est pas au nord d'Israël. Je lis Ézéchiel 38, verset 5. Ézéchiel 38, verset 5. Parmi eux se trouvent des Perses, des Éthiopiens et des Libyens, tous équipés de boucliers et de casques. Verset 6. Les Cimériens avec toutes leurs troupes, la maison de Togarma, venue de l'extrême nord, avec toutes ses troupes. Oui, de nombreux peuples sont avec toi. Verset 7. Prépare-toi et tiens-toi prêt. Toi et toutes tes troupes qui se sont rassemblées auprès de toi, et sois leur chef. Verset 8. Après un certain temps, tu recevras l'ordre. À la fin des années, tu viendras sur un pays qui s'est remis de la guerre, qui a été rassemblé à partir de nombreux peuples sur les montagnes d'Israël, qui étaient restés désolés. Mais maintenant, il a été ramené des nations et ils habitent tous en sécurité. Lorsque nous lisons ici dans les Saintes Écritures qu'il est question du nord, de l'extrême nord, c'est toujours par rapport à Israël et non par rapport à l'Amérique ni à une autre partie du monde, mais toujours par rapport à Israël. Et cela est facile à vérifier d'après le chapitre 38, versets 14 et 15. Chapitre 38, versets 14 et 15. Verset 14. C'est pourquoi, fils de l'homme, prononce ces paroles contre Gog. Ainsi parle le Seigneur Dieu. En effet, au moment où mon peuple d'Israël habitera de nouveau en sécurité, tu te mettras en route, verset 15, et tu viendras de ta demeure de l'extrême nord, toi et de nombreux peuples avec toi, tous à cheval, une grande multitude et une armée puissante. Verset 16, et tu t'avanceras contre mon peuple d'Israël comme un nuage de tempête pour recouvrir le pays. À la fin des jours, je te ferai marcher contre mon pays afin que les nations me connaissent quand je me manifesterai comme saint devant leurs yeux. Par toi, Gog. Et ensuite, chapitre 39, versets 2 à 4, prêtons toujours une attention particulière à l'accentuation géographique extrême nord. Extrême nord. Verset 2, je te ferai venir et je te mènerai par la bride. Je te ferai venir de l'extrême nord. Et je te ferai venir sur les montagnes d'Israël. Verset 3. Mais là, je te ferai lâcher l'arc de ta main gauche et tomber les flèches de ta main droite. Verset 4. Tu tomberas sur les montagnes d'Israël, toi-même, toutes tes troupes et les peuples qui sont avec toi. Je te livrerai aux pâtures, aux oiseaux, de proie à toute créature qui ont des ailes et aux bêtes sauvages des champs. Je voudrais maintenant vous montrer rapidement à partir d'Apocalypse 19 que cela arrivera lorsque le Seigneur reviendra après le festin des noces avec les saints pour régler ses comptes sur les ennemis. En effet, ce qui est dit ici est également dit là-bas, à savoir que Dieu préparera un festin pour tous les oiseaux et les bêtes. Apocalypse chapitre 19, 17 et 18. Donc Apocalypse 19, versets 17 et 18. Puis je vis un ange debout dans le soleil qui criait d'une voix forte à tous les oiseaux volant haut dans le ciel. Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu. Verset 18. Vous mangerez la chair des rois, la chair des chefs de guerre, la chair des puissants, la chair des chevaux et de leurs cavaliers, la chair de toutes sortes de gens, des libres et des esclaves, des petits et des grands. Quiconque lit cela attentivement et en saisit le contexte constatera que dans Apocalypse 19, des versets 1 à 10, le festin des noces est brièvement mentionné. La foule innombrable chante le grand Alléluia dans les cieux, dans la gloire. Au verset 7, il nous est dit, réjouissons-nous, exultons et rendons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Puis cela continue jusqu'au verset 11, où il nous est dit que le Seigneur descendra sur un cheval blanc, ce qui signifie la puissance. Verset 11, il s'appelle fidèle et véritable, il juge et combat avec justice. Puis le verset 12, ses yeux sont comme une flamme de feu, sur sa tête il porte de nombreuses couronnes royales, et il porte sur lui un nom écrit que personne ne connaît, sauf lui-même. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Nous pourrions éclairer ces liens à partir du prophète Ésaïe, où il est également clairement décrit ce qui se passera à ce moment-là. Mais ce n'est pas notre tâche aujourd'hui. Je voudrais simplement dire pour notre réconfort et notre apaisement à tous. Nous ne sommes pas encore arrivés à la fin. Il y a déjà eu des guerres et des cris de guerre. Il y en a actuellement et il y en aura encore. Ainsi que des conflits armés, ils pourraient s'intensifier, devenir plus violent. Mais qu'on le dise encore une fois clairement, tout cela se produit et constitue l'accomplissement de la prophétie biblique en nos jours. Mais cela conduit à ce que le désir de paix parmi l'humanité devienne si grand que lorsque cet homme proclamera la paix, le monde entier poussera un soupir de soulagement afin le moment est venu. Alors on dira, les épées ont été transformées en socs de charrues. C'est la paix, c'est la sécurité. Vous voyez bien comment tout s'imbrique. Une chose en déclenche une autre, la rend nécessaire, l'entraîne afin que de toutes les manières, les saintes écritures s'accomplissent sous nos yeux de nos jours. J'ai relu le sermon de Frère Branham lors de ce voyage en Yougoslavie. D'ailleurs, de nombreux frères et sœurs vous transmettent leurs salutations les plus chaleureuses. C'était intime et chaleureux. Dieu a fait de grandes choses. Ici, Frère Branham dit dans l'édition intégrale de cette brochure « Reconnaissez le jour et son message » à la page 14, « Israël est dans son pays d'origine. Ils ont été rassemblés comme des brebis. Les loups les ont poursuivis et les ont poussés à revenir dans leur propre pays où ils sont en sécurité. » Remarquez, la bénédiction promise à Israël ne valait que tant qu'ils étaient dans leur pays. Dieu ne bénit jamais Israël en dehors du pays. Quand Abraham a quitté le pays, il a été coupé de la bénédiction. Dieu ne peut bénir Israël que s'il reste dans leur pays d'origine. Ils sont désormais là-bas en tant que nation et n'attendent que l'enlèvement de l'épouse, car l'Église a été appelée à sortir. Les sceaux sont ouverts. Cela nous est révélé. Nous voyons ce qui n'était pas connu. Vous qui voulez débattre et vous disputer au sujet de la postérité, la semence du serpent, du baptême d'eau et ainsi de suite, vous êtes aveugles. Vous êtes aveuglé, et vous ne le savez pas. À partir de ce texte exposé ou proclamé, je voudrais mettre en avant la réflexion suivante. Il est en effet très important de savoir où Dieu bénit réellement. Où Dieu peut bénir. Dieu ne peut nous bénir que si nous nous trouvons dans ce qu'il nous a promis et destiné. Si nous sommes là où Dieu voulait que nous soyons, alors il peut nous bénir. Dieu a promis au peuple d'Israël le pays des sept nations, le pays des Amoriens, des Périzites, sept peuples qui habitaient le pays de Canaan. Et dans ce pays, Dieu a béni au-delà de toute mesure. En dehors de ce pays, la bénédiction était coupée, comme nous venons de l'entendre. Appliquée à l'Église du Dieu vivant, cela signifie, ce n'est que lorsque nous nous tenons sur le sol des promesses divines que Dieu peut faire descendre sur nous toute sa bénédiction. Il se peut que Dieu bénisse, et beaucoup peuvent témoigner de bénédictions. Mais à la fin, il apparaîtra clairement que la bénédiction seule n'était pas le critère qui importait, mais l'obéissance qui vaut mieux que n'importe quel sacrifice et la soumission comme nous le lisons dans Samuel, n'est-ce pas? Ce qui a été dit à l'époque, 1 Samuel 15, verset 22. Ainsi, Église du Dieu vivant, les bénédictions sont merveilleuses. Rendons grâce à Dieu pour toutes les bénédictions qui se sont manifestées dans toutes les assemblées ou dans de nombreuses assemblées, en particulier dans les courants de l'Évangile, dans les courants des assemblées du plein Évangile. Mais beaucoup ne suivent-ils pas leur propre chemin avec leurs bénédictions? Ne passent-ils pas à côté de ce que Dieu a fait? Ainsi, pour le peuple de Dieu, la parole de Dieu est un commandement saint. Tout comme Israël a été rassemblé parmi tous les peuples et ramené sur sa terre natale, placé dans le pays de la promesse pour recevoir ensuite la bénédiction de Dieu, de même, l'Église épouse est rassemblée parmi tous les peuples, toutes les langues et toutes les nations, parmi toutes les confessions et toutes les communautés, et placée sur le sol des promesses divines. Nous devons être placés sur ce sol, car si nous n'avons pas de promesses, comment pouvons-nous espérer que Dieu l'accomplisse? Voyez, il en est ainsi. Il y a en effet de nombreuses promesses dans les Écritures, des promesses de nature personnelle et des promesses pour l'Église, des promesses pour Israël. Mais il y a aussi des promesses qui sont simplement destinées à l'achèvement, à l'appel à sortir et à la préparation de l'Église. Si quelqu'un s'appuie sur la promesse de Marc, chapitre 16, voici les miracles qu'accompagneront ceux qui auront cru. Si quelqu'un, quel qu'il soit, s'appuie sur cette promesse et que cela soit dans la volonté de Dieu, alors Dieu est fidèle. Il ne peut pas manquer à sa parole. Il doit la tenir. Il doit l'accomplir. Qu'a dit frère Branham? Il était tellement étonné de voir que des croyants sanctifiés venaient dans la file de prière et en repartaient sans être guéris, tandis que des gens du monde venaient, croyaient et étaient guéris. Il s'est posé lui-même cette question, mais comment cela pouvait il être ainsi? Les croyants pensent naturellement à ce moment-là, à tout ce qu'ils n'ont pas fait correctement, à ce qu'ils ont négligé, et ils se concentrent sur eux-mêmes. L'incroyant vient voir ce que Dieu fait, ne tergiverse pas, croit simplement et s'en va avec ce que Dieu est capable de faire. Mes chers amis, nous aussi, nous devons apprendre à l'heure où la parole de Dieu nous est adressée et où le Saint-Esprit commence à agir, à ne pas nous interroger ni agir, mais à nous placer entièrement et totalement sous la grâce de Dieu, sous le sang expiatoire, sous le pardon, et à ne pas nous préoccuper de nous-mêmes, mais simplement à accepter dans la foi ce que nous demandons à Dieu et en remerciant Dieu d'avance qu'il a déjà accordé. C'est en fait le chemin que Dieu veut nous montrer afin que nous puissions un jour, peut-être dès aujourd'hui, célébrer les victoires de Dieu et vivre ce que le Seigneur nous a promis. Mais s'il s'agit maintenant d'aborder la fin des temps et ce que Dieu nous a promis, alors il est tout aussi important et nécessaire que nous croyions aux promesses contenues dans la Bible que nous aimerions voir s'accomplir, de croire réellement aussi aux promesses concernant la fin des temps qui se rapportent à l'Église, et qui ont trait à l'appel à sortir et à la préparation de l'épouse et de vivre leur accomplissement. Il y a des gens qui ne croient même pas qu'il y ait une différence entre l'Église en tant que telle et l'épouse, qu'il y ait là une distinction. Pour eux, tout semble ne faire qu'un. Mais Dieu a des appelés et Dieu a des élus. Et les élus prendront justement part à la première résurrection. Et c'est pourquoi la parole est véritablement la parole révélée, la parole adressée à l'épouse, adressée aux élus, qui ne peut absolument pas être comprise par tous les autres. Si on leur en parle, ils demandent de quoi il s'agit réellement. Cela ne leur a pas encore été révélé, mais nous croyons que Dieu en appellera encore beaucoup à sortir et leur révélera cela. S'ils en font vraiment partie, alors ils croiront aux promesses pour notre époque. Hier soir, nous avons eu une réunion particulièrement bonne près de Belgrade, des personnes de différentes assemblées sont venues, et à la fin, nous avons entendu maintes fois la même phrase. Nous n'avons jamais entendu parler de toutes ces choses. Et puis la question, où étiez-vous jusqu'à aujourd'hui? Pourquoi les prédicateurs ne vous l'ont-ils pas encore dit? Partout, on chante dans l'esprit, on exulte, on pousse des cris de joie, les mains s'élèvent, c'est beau. Dieu merci. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit ici, mais j'ai participé le mois dernier à deux rassemblements charismatiques en Autriche. Dans les deux, on chantait dans l'esprit et j'ai chanté de tout mon cœur. Tout comme je chante les chants ici-bas, les cantiques, j'ai chanté de tout mon cœur. C'est vraiment le Saint-Esprit qui agit dans les différentes dénominations. La question est seulement de savoir combien d'entre elles seront prêtes à se laisser conduire ensuite et diriger et guider par le Saint-Esprit, par l'Esprit de Dieu, vers la vérité, dans la vérité. Bien sûr, le président m'a dit que s'il faisait certains gestes, ce serait alors le moment pour moi d'arrêter de prêcher. Et je me suis dit, bon, voyons voir quand ce sera. Et à peine avais-je vraiment commencé qu'il a déjà fait ce geste. Puis il a déjà fait ce geste, de droite à gauche. Oui, je n'avais encore rien dit. Je venais à peine de commencer. Et puis on trouve tout de même le courage de passer outre tout cela et de transmettre malgré tout la parole du Seigneur. Même lorsque l'homme se lève et vient à ma rencontre, à mi-chemin, je continue quand même jusqu'à ce que ce qui devait être dit soit dit. Ce qui est fait ensuite ne me concerne plus. C'est alors l'affaire de ceux qui ont entendu la parole. Mais là aussi, c'est arrivé, je crois l'avoir déjà raconté ici. Ma mémoire est très courte. Je l'ai raconté, oui, ici, oui ou non. Mais nous nous sommes en effet réjouis. Les gens ont emporté, les Écritures ont emporté le nouveau tract. On demandait de quoi il s'agissait, car il y avait plus de 300 personnes rassemblées. Dieu nous appelle et partout où une porte s'ouvre, nous pouvons entrer, peu importe où cela se trouve. J'ai ici un autre passage à lire qui, d'une part, m'a attristé dans le sermon de Frère Branham. Il était en effet le plus grand homme de Dieu depuis l'époque de Jésus-Christ et des apôtres. À la page 31, il dit ici le cœur attristé, déterminé par vous-même si je suis populaire. Si l'on retirait de la chapelle ceux qui sont venus de l'extérieur ce matin, en commençant par ceux de Jeffersonville, il ne resterait guère plus d'une demi-douzaine de personnes à qui je pourrais prêcher. Imaginez-les. Dans sa propre ville, il témoigne que les 300 à 400 personnes C'est la capacité de la chapelle qui s'était rassemblée de tout le pays, pour entendre la parole du Seigneur de sa propre ville, pas même une demi-douzaine. Comment était-ce au temps de notre Seigneur? Il ne pouvait accomplir de grands miracles et de grands signes dans sa ville natale. Il ne pouvait pas le faire. Précisément à cause de l'incrédulité qui régnait chez les gens. Ce n'était pas un grand réconfort pour moi, car nous préférerions bien sûr voir plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de personnes venir au rassemblement, aux réunions. Le message de Dieu est pour moi personnellement si important, si précieux, si grand, que je voudrais le transmettre non seulement à des milliers, mais à des centaines de milliers de personnes. C'est véritablement le message de Dieu à l'humanité. Et nous souhaitons donc que le plus grand nombre possible puisse l'entendre. Mais ce n'est pas à nous d'en décider. C'est le Seigneur qui accomplit tout en tous. Si je demandais aujourd'hui combien d'entre vous viennent directement de Zurich, ils ne seraient que peu nombreux. Nous aussi, nous sommes dispersés, nous nous réunissons et attendons ensemble le jour où Dieu se glorifiera, confirmera sa parole, accordera un renouveau par son esprit et fera apparaître la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. J'ai dit tout à l'heure que la situation politique, avec tout ce qui se passe, les tensions et ainsi de suite, indique justement que l'appel à la paix et à la sécurité devient encore plus grand et que l'humanité se sent alors en quelque sorte libérée lorsqu'elle sait. Maintenant, c'est la paix et il n'y a pas de danger. Une expérience que j'ai vécue entre dimanche dernier et lundi m'a un peu fait réfléchir. Vous savez, je ne suis pas un rêveur. De temps en temps, j'ai vécu quelque chose avec Dieu, mais en tout cas, cela n'arrive pas chaque semaine, ni chaque mois, ni même chaque année. On ne peut pas décider de vivre des expériences avec Dieu. Elles doivent nous être données, offertes. En tout cas, j'ai eu un songe étrange dans un rêve. J'ai été conduit sur la place devant une cathédrale romaine qui, vue de l'extérieur, ressemblait à la cathédrale de Cologne avec beaucoup d'autres personnes. C'était une grande foule. On voyait des photographes, de presse, des caméras, des gens qui prenaient des photos, etc. Et on disait, maintenant, tout le monde doit se soumettre. Et je me suis dit, voyons voir comment ça va se passer. Et déjà, j'ai vu quelques dignitaires. Et de côté, j'ai pu voir que l'un d'eux dirigeait les opérations. Et on m'a pris et on a voulu me placer dans cette rangée où tous étaient revêtus d'une robe romaine, d'une robe cléricale. L'un après l'autre, c'était un spectacle en plein air. Et alors j'ai dit, mais je n'ai rien à faire ici, c'est pas ma place. Je me suis en quelque sorte libéré de cette situation. Je suis sorti de la rangée et j'ai regardé vers la gauche, là où se tenaient ces dignitaires principaux, et en particulier l'homme qui dirigeait l'ensemble. Et que puis-je vous dire? Vous devez me croire, je n'ai aucune raison de dire quelque chose qui ne soit pas vrai. En tout cas, quand j'ai regardé, j'ai été plus que surpris. Je pensais voir un dignitaire. Et savez-vous qui j'ai vu? Satan en personne. C'est la première fois de toute ma vie que j'ai vu Satan en personne. En grand, je lui ai dit, tu es bien Satan. Et il s'est tu. Il ne pouvait plus dire un mot. J'ai répété, j'ai dit, tu es Satan, celui qui dirige tout cela ici. Puis je me suis retourné et j'ai poursuivi mon chemin car cela ne me concernait pas. J'avais rien à voir avec cela. Depuis ce jour, ou plutôt depuis cette nuit, une chose m'apparaît plus clairement que jamais dans toute ma vie. Tout comme Dieu a une église sur terre dont il est le chef et où il a le dernier mot, c'est ainsi que Satan a son quartier général ici sur cette terre et il dirige tout le monde entier. Je pourrais le décrire, je souris un peu maintenant car c'était vraiment très étrange, comme le travail d'un tourneur sur bois, ses boucles sortaient de là, pas comme des cornes, mais tout de même des boucles. Il avait l'air tout à fait distingué à sa manière. Je pourrais le représenter très précisément, le décrire très précisément. En tout cas, j'ai dit, ce n'est pas ma place ici, je n'ai pas ma place ici. Je me suis arraché de là et j'ai traversé la foule que je voyais à nouveau. Tout le monde était là pour observer ce spectacle. Mes chers amis, permettez-moi de conclure en disant ceci. Nous ne sommes pas ici pour pratiquer la religion, ni pour faire de la politique. Nous sommes ici pour écouter la parole de Dieu. Mais si les développements politiques et religieux s'inscrivent dans le déroulement prophétique, alors nous devons y prêter attention. C'est vraiment tout ce qui compte maintenant. C'est l'ensemble qui est en jeu. Et j'ai eu l'impression que cette intégration ne devait pas encore se faire par la force, mais avec une douce autorité. L'autre aspect viendra plus tard, car ici, il fallait être revêtu de dignité. Tous ceux qui s'étaient mis en place ont alors été revêtus de la même robe. Cela avait l'air drôle. Ils ont été revêtus. Dieu merci, j'ai refusé. Je n'ai pas ma place là-bas. Il se peut que tous ceux qui n'appartiennent pas encore au conseil œcuménique des communautés religieuses soient invités à venir, mais nous n'avons pas notre place là-bas. Nous restons fidèles au Seigneur jusqu'à la fin. Nous avons mené le combat de la foi jusqu'à présent au nom du Seigneur et nous le ferons jusqu'à la fin. Dans Apocalypse 13, nous avons lu récemment que Satan donne son trône et son pouvoir à l'Antichrist. Nous pouvons tous le lire et c'est là que je l'ai effectivement vu. C'est lui qui mène la danse, il a le commandement. Mais il existe une église du Dieu vivant. La colonne et l'appui de la vérité, elle est destinée sous la conduite du Saint-Esprit à reconnaître Jésus-Christ comme la tête et le suivre et le servir. Résumons ce dont il s'agit maintenant. Nous vivons à la fin des temps. Tout ce qui se passe actuellement s'inscrit dans un déroulement et s'inscrit dans la prophétie de la fin des temps. Seul celui qui peut discerner ces choses, qui les voit par révélation, pourra échapper à tout, que cela vienne pour le bien ou pour le mal. Au début, on peut essayer de tout concilier, mais comment deux peuvent-ils marcher ensemble, écrit le prophète Amos, à moins qu'ils ne soient d'accord. Mais en quoi le Christ s'accorde-t-il avec Bélial? Qu'ont en commun le Christ et l'Antichrist? Dieu a une troupe lavée par le sang, de véritables rachetés, des enfants de Dieu, qui portent en eux sa parole comme une semence durable, qui sont nés de nouveau à une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Des hommes qui n'aimeront pas leur vie jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Notre Seigneur, qui nous a aimés et s'est livré pour nous, sera avec nous. Je l'ai déjà dit maintes fois, il vaut mieux mourir avec le Seigneur que de vivre sans lui. Il vaut mieux le confesser dans la mort que de le renier dans la vie. Il y a ce passage dans l'Apocalypse 14. L'Apocalypse 14, verset 13. Heureux les, donc bienheureux les morts qui meurent dans le Seigneur à partir de maintenant. Il y a eu un moment à partir duquel on pouvait mourir dans la béatitude. Et nous aussi, nous pouvons faire partie de cela. Il faut que nous mourions alors, s'il faut que nous mourions, alors dans la béatitude, pour entrer ensuite dans la gloire, dans la béatitude. Tout ce qui se passe actuellement fait partie de la prophétie biblique et nous sommes du fond du cœur reconnaissants envers Dieu de pouvoir voir et vivre tout cela, de pouvoir lever la tête car nous savons que notre salut, notre rédemption approche. Nos noms sont inscrits dans le livre de l'agneau immolé depuis la fondation du monde. Et il y aura une multitude de vainqueurs à chaque âge. Il y aura aussi une multitude de vainqueurs dans notre génération. Et ce seront ceux qui ont reçu et accepté la parole, le message divin, ceux qui ont entendu ce que l'Esprit disait aux églises. Ils vaincront par le sang de l'agneau et grâce à la parole de leur témoignage. Que Dieu nous accorde la grâce d'être sans crainte. Réfléchissez au nombre de ceux qui, surtout jusqu'à la Réformation, ont donné leur vie pour la foi et pour la libre proclamation de l'Évangile. S'il devait en être ainsi, que d'autres s'y ajoutent, rendons grâce à Dieu de tout notre cœur. Celui qui est avec nous dans la vie est aussi avec nous dans la mort. Paul n'a-t-il pas écrit dans Romains 14, verset 7, « Si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur. Que nous vivions ou que nous mourions, nous sommes au Seigneur. » Je voudrais maintenant poser cette question. Combien sont reconnaissants envers Dieu pour le grand privilège de vivre en ce temps, d'entendre sa vraie parole, d'avoir les yeux ouverts, d'avoir reçu la compréhension pour les Écritures qui s'accomplissent sous nos yeux et surtout de prendre part à ce que Dieu accomplit actuellement. Le peuple d'Israël revient sur la terre de la promesse. Dieu est là avec eux. C'est là que les deux prophètes apporteront leur message, non pas à Moscou ni à New York, mais à Jérusalem, comme cela nous est décrit dans l'Apocalypse chapitre 11. Où le message prophétique sera-t-il entendu en ce temps? Là où le peuple de Dieu arrive sur la terre des promesses divines pour ce temps, s'y rassemble et est prêt à entendre ce que Dieu a à dire par l'Esprit, par le message prophétique de nos jours, dans nos jours. Et à ce sujet, on ne peut que souligner que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Car la séduction sera si proche. D'ailleurs, j'ai trouvé cette parole dans l'Apocalypse 19, au verset 20, où le prophète menteur accomplira de grands miracles et des signes, ainsi qu'à d'autres endroits. On en arrivera finalement à dire l'Esprit de Dieu agit partout. Le Christ est ici, le Christ est là. Que de grands miracles et signes se produisent, nous ne nous laisserons alors emportés par rien, ni trompés par personne. Qu'avons-nous entendu maintes fois? Éprouvez tout à la lumière de la parole de Dieu. C'est là que nous avons le critère pour discerner et savoir si cela est conforme à Dieu. Ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu n'est pas non plus conforme à Dieu. Et Dieu ne s'engagera avec personne dans des compromis boiteux. Il est saint. Sa parole est sainte. Il est véridique, véritable, et sa parole est véritable. Quiconque souhaite venir à lui pourra venir à lui et accepter sa parole comme l'absolu dans toutes les questions de foi et d'enseignement, et aussi ainsi, et aura ainsi la possibilité de discerner ce qui est quoi. Mais l'Écriture le dit bien dans Matthieu 24, que même si c'était possible, les élus seraient séduits, risqueraient d'être séduits. Donc, il faut donc que cela se rapproche très, très étroitement de l'authentique. Ici, alléluia, et là, alléluia. Ici, loué soit le Seigneur, et là-bas aussi, loué soit le Seigneur. Ici et là. La seule différence réside dans le fait que la troupe rachetée par le sang est née de nouveau de la semence divine de la parole, qu'elle est unie par l'esprit à la parole et de la parole à l'esprit, et qu'elle reste ainsi unie à Dieu jusqu'à ce que nous passions de la foi à la vue. Que le nom du Seigneur soit loué et glorifié. Nous n'avons absolument rien à craindre. Paul l'a lui aussi prédit. Comme jamais ces Ambrèses ont accompli de grandes choses, des hommes à l'esprit dérangé en feront de même dans les derniers jours. À la fin, leur folie est apparue. Jannès et Jambrès n'étaient pas envoyés par Dieu. Ils n'avaient ni appel, ni message, ni mandat. Ils se sont simplement ingérés un peu. À la fin, il est apparu clairement où se trouvait la victoire de Dieu et qui Dieu avait envoyé, non pas pour semer la confusion parmi son peuple, mais pour le faire sortir, afin de pouvoir ensuite le faire entrer. Ne nous inquiétons pas, c'était ainsi à l'époque. Aussi, beaucoup de choses se passaient à droite et à gauche de Moïse. Moïse est resté debout. Il était un prophète envoyé par Dieu et investi d'une mission divine, d'un mandat divin. Des choses se passent à droite et à gauche. Le message prophétique demeure au milieu du peuple de Dieu. Et nous croyons en l'Écriture et en cela de tout notre cœur, jusqu'à ce que nous voyons l'accomplissement de tout ce que Dieu a promis dans sa parole. Tout à la fin, ce qui est venu de Dieu aura éclipsé tout le reste. Tout le reste n'existera plus et n'aura plus de valeur. Mais Dieu achèvera l'œuvre qu'il a commencée avec les siens de manière glorieuse et puissante par la plus grande victoire de tous les temps pour la gloire et la louange de son nom merveilleux et saint. Amen. Amen. Levons-nous alors que nous inclinons tous la tête, fermons les yeux et ouvrons nos cœurs. Permettez-moi de demander s'il y a ici quelqu'un qui a été interpellé par la parole. Cela n'a peut-être pas été présenté de manière aussi structurée qu'un sermon devrait l'être, mais si vous lisez les sermons de notre Seigneur, ce n'était pas des discours. Il parlait, et quand on les lit, on y trouve tant de choses, une multitude de pensées et d'explications. Nous en sommes reconnaissants envers le Seigneur. Aujourd'hui encore, il aura certainement interpellé chacun, l'un par ceci, l'autre par autre chose. Il y en a eu pour chacun. Cher cœur, peut-être es-tu encore indécis. Tu ne sais pas encore exactement où tu devrais te situer. Aujourd'hui, le Seigneur nous montre clairement qu'à la fin, il n'y aura vraiment que deux groupes. Les uns porteront le sceau de Dieu, scellé par le Saint-Esprit pour le jour de la rédemption du corps, selon Éphésiens 1, verset 13, et Éphésiens 4, verset 30, et les autres porteront la marque de la bête Une grande multitude sera victime de la séduction. Ils croiront en celui qui vient et se présente en son propre nom, s'élevant au-dessus de Dieu et de tout ce qui concerne le culte, s'emparant de la parole, se plaçant au-dessus de tout et prenant le pouvoir. Ils ne pourront pas faire la distinction. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reconnu l'heure de la visite de la grâce divine, qu'ils n'ont pas reçu l'enseignement prophétique et qu'ils n'ont donc pas la parole comme ligne directrice, comme référence, et qu'ils tombent ainsi dans l'erreur. Acceptez la parole. Accueillez le Seigneur. Laissez-vous accorder la grâce. Oui, réconciliez-vous avec Dieu. Sortez de votre propre savoir et de votre propre compréhension pour en arriver simplement à pouvoir dire « Connaissance bénie, Jésus est mien. Bien-aimé, l'heure décisive est venue. » C'est maintenant que les dés sont jetés, telle que sera notre décision aujourd'hui, telle sera notre destinée pour l'éternité. Celui qui prend la bonne décision sera auprès du Seigneur. Celui qui ne le fait pas ne pourra pas y être. Que vous soyez ici pour la première fois et que ce type de prédication vous soit nouveau ou que vous soyez déjà venu ici à plusieurs reprises, si Dieu a parlé à vos cœurs par sa parole et par son esprit, nous vous exhortons et vous supplions. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Ce que Paul a dit, a écrit aux Corinthiens est vrai. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Quiconque n'a pas encore accepté cette réconciliation et ce pardon, quiconque n'a pas encore reçu le salut et la grâce que Dieu nous a donnée en Christ, peut en faire l'expérience maintenant. Peut en faire l'expérience maintenant. Jésus est ici. Il est proche. Il nous a parlé. Il frappe maintenant à nos cœurs et nous demande, laissez-moi entrer. Pendant que les têtes sont inclinées, puis-je demander brièvement s'il y a ici des personnes que nous pouvons inclure dans cette prière. Levez alors brièvement la main, puis reposez-la. Que Dieu vous bénisse, 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 que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Y a-t-il encore quelqu'un ici? Oh, que Dieu bénisse cette chère sœur, cette chère dame qui est encore là. Que Dieu vous bénisse là-bas. Loué soit le nom du Seigneur. Ah, combien vous serez reconnaissant pour l'éternité que la vraie parole vous ait été prêchée sans compromis. Proclamez fraîchement depuis le trône afin que vous puissiez désormais discerner et ne pas succomber à l'erreur. Prions ensemble. Père céleste, je te remercie du fond du cœur pour ce temps de grâce dans lequel nous vivons, mais qui touche maintenant à sa fin. Le jour du salut s'est incliné. Seigneur, le soir est tombé. L'heure de minuit approche. L'appel retentit. Voici l'époux. Viens. L'époux vient. Levez-vous pour aller à sa rencontre. Seigneur bien-aimé, nous n'aurions pas pu nous lever si nous n'avions pas entendu cet appel. Nous te remercions pour l'appel au réveil que nous avons entendu. Nous te remercions de nous permettre de voir, de reconnaître et de vivre sous nos yeux le temps, les signes des temps et l'accomplissement de la prophétie biblique. Seigneur bien-aimé, ce qui nous importe par-dessus tout, c'est d'être placé sur le fondement des promesses que tu as faites à ton peuple pour ce temps. Et puis nous te prions ceci, accorde-nous la foi en toi, le Dieu véritable qui est fidèle, qui est vrai, qui ne peut pas manquer à sa parole, le glorieux qui ne ment pas, qui est la vérité, afin que tu accomplisses ce que tu as promis. Tu fais retentir l'appel au réveil, tu procèdes à l'appel à sortir, à l'enseignement, à la correction, à la restauration de toutes choses, jusqu'à la préparation et l'achèvement de ce que tu as pu appeler à sortir. Selon la parole de l'Écriture, vous, mon peuple, sortez, séparez-vous, ne touchez rien d'impur, dit le Seigneur. Bien-aimé Sauveur, nous avons entendu ce « ainsi parle le Seigneur », en particulier à travers le message prophétique de la fin des temps. Nous avons été appelés pour te appelés à sortir pour te servir, pour te suivre, pour croire, pour te croire, pour t'obéir, jusqu'à ce que nous passions de la foi à la vue. Bien-aimé Sauveur, nous prions maintenant ensemble pour tous ceux qui ont levé les mains. Tu sais ce dont ils ont besoin, qu'il s'agisse de détresse psychique, de détresse spirituelle, de détresse physique, quoi que ce soit, ô Seigneur, nous te remercions pour la rédemption totale qui a eu lieu à Golgotha. La rédemption de notre âme, la délivrance de notre esprit, la guérison de notre corps. Ô Dieu, nous te remercions ensemble de nous avoir pardonnés et accueillis en Christ, d'avoir fait des enfants de Dieu à partir d'enfants des hommes. Accorde-nous ta paix, la paix avec Dieu qui surpasse toute intelligence humaine. Seigneur bien-aimé, bénis tous ceux qui sont venus à toi aujourd'hui et accorde-leur ce pourquoi ils prient, ce dont ils ont besoin. Sois avec eux et sois avec nous tous d'une manière toute particulière, car nous pouvons lever la tête sachant que notre rédemption approche, que notre rédemption approche. Sois loué et glorifié pour ta parole, pour l'Ancien et le Nouveau Testament et pour leur révélation. Nous te louons et nous te remercions également pour ce jour et pour ce service divin. Au nom saint de Jésus, alléluia, alléluia, gloire à Dieu. Amen.